Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Christophe Pallais.
Bonsoir, les titres de ce lundi. L'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête indépendante sur le fiasco du Stade de France. Gérald Darmanin dénonce les trafics de faux billets. Selon nos informations, les services de renseignement avaient lancé l'alerte avant la rencontre. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal, la mort d'un journaliste français de BFM TV en Ukraine. Les 27 sont réunis ce soir à Bruxelles pour évoquer de nouvelles sanctions contre Moscou. Et puis la suite et la fin des huitièmes de finale aujourd'hui à Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. La surprise, c'est l'élimination du grec Tsitsipas. Et l'événement ce soir, c'est le russe Medvedev face au croate Marin Cilic. Nous serons en direct de Roland-Garros à la fin de ce journal. Le temps demain, il s'annonce généralement sec, mais on attend quelques averses. On verra cela avec Marlène Duré. Alors que le coup d'envoi des législatives a été donné aujourd'hui, Rudolf Granier sera notre invité politique à 22h20. Il est candidat des Républicains dans le 18e arrondissement. Et puis juste avant de retrouver Olivier Delacroix et sa libre antenne, vous découvrirez, comme chaque soir, les unes de la presse de ce dernier jour de mai.
Europe 1.
Une fraude massive, organisée et industrielle, les mots sont ceux de Gérald Darmanin, 48 heures après le fiasco au Stade de France. Le gouvernement tire les enseignements après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions. Invité ce soir du 20h de TF1, le ministre de l'Intérieur annonce que le procureur de la République a ouvert une enquête et il exclut désormais l'usage des billets papier.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billets, avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Et il y a eu 70% des contrôles du préfiltrage, 70% des personnes qu'on a contrôlées, ça veut dire donc 120 000 personnes, 80 000 plus ces 40 000 qui n'auraient pas dû être là, qui ont vu leurs billets étant faux. Et donc évidemment, ça a créé un bouchon très important. Et puis ensuite, quand on a levé les préfiltrages pour éviter, bien sûr, la soirée était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves grâce aux décisions prises par la police. Eh bien, effectivement, il y a eu le retard qu'on a tous vu. Donc, effectivement, pour régler les problèmes, la ministre des Sports a demandé à ce qu'on étudie que dans toute compétition qui puisse se dérouler sur le territoire national, désormais, les billets soient infalsifiables, c'est-à-dire totalement numériques.
Le ministre de l'Intérieur aux 20h de TF1 ce soir. Le Sénat va l'auditionner mercredi, ainsi que la ministre des Sports. L'UEFA annonce qu'elle va ouvrir une enquête indépendante sur l'origine de ces incidents. Alors les services de renseignement avaient alerté sur les risques de débordement liés à cette finale de Ligue des Champions. C'est une information Europe 1 et tout cela figure dans une note que vous avez pu consulter, William Molinier.
Oui, note qui date du 25 mai, on est donc 4 jours avant le match. Note de prévision de 4 pages, fouillée, documentée, dans laquelle les policiers de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme prévenaient les autorités des risques de débordement et de tentatives d'intrusion dans le stade. Tout y est écrit noir sur blanc et même les projections de fréquentation habituellement difficiles à qualifier. Là, elles ont été plutôt bien estimées puisque le renseignement prévoyait 50 000 à 75 000 supporters anglais dans la capitale, dont 50 000 sans billets. C'est même un peu au-delà de ce qui a été réellement comptabilisé sur le terrain, mais surtout cette note alertait sur le fait que certains supporters, je cite, seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade. Donc cette problématique des faux billets était connue des autorités. C'est donc bien un problème d'organisation, de moyens et de gestion opérationnelle de l'événement qui a fait défaut du côté de la préfecture de police samedi soir.
Les informations Europe 1 de William Molinier. Alors si la France met en cause les faux billets des supporters de Liverpool, en Angleterre, on voit les choses d'un autre œil. Les témoignages se multiplient pour dénoncer la mauvaise gestion autour du Stade de France et l'attitude des forces de l'ordre.
Oui, Downing Street a exprimé sa profonde déception sur la manière dont les fans anglais ont été traités. Les images vues au Stade de France sont inquiétantes et navrantes, a déclaré un porte-parole. C'est aussi l'avis d'Andy Byrne, député de Liverpool, qui était présent à Paris samedi soir et qui le premier a demandé l'ouverture d'une enquête officielle sur ces incidents.
Les policiers s'y sont très mal pris, les organisateurs aussi. Il y avait de gros problèmes sur place. Certaines portes étaient bloquées. C'était épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot. L'atmosphère était très hostile. Traiter des supporters comme des animaux, c'est impardonnable.
Outre-Manche, la version des autorités françaises est contestée. La déclaration de Gérald Darmanin aujourd'hui n'y change rien. Comme en témoigne ce journaliste du Liverpool Echo qui a réagi à la télévision.
Accuser les fans d'être en retard,
Ou rejeter la faute sur des fans qui avaient de faux billets, c'est n'importe quoi. Moi, j'étais sur place dès 18h et je n'ai rien observé de tel. Il n'y avait aucun signe de désordre à venir.
Voilà, une version que confirment également des policiers anglais présents samedi soir en tant qu'observateurs.
Le reportage à Londres d'Anaïs Cordoba pour Europe 1. Alors parmi les réactions en France, la gauche pointe les méthodes de maintien de l'ordre, tandis que l'extrême droite dénonce, je cite, « les racailles ». Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, est venu visiter le commissariat de Saint-Denis. Écoutez sa réaction au micro de Victor Chabert.
Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser la billetterie et les supporters britanniques plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, il y a un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Donc on est venu dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit.
Gérald Darmanin est revenu ce soir sur ses accusations du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur rappelle que 29 interpellations ont eu lieu dans le stade et que la moitié des personnes étaient britanniques. À l'extérieur, il y a eu 52 interpellations et 40 sont français. Alors après le fiasco de samedi soir, les grands noms du football ne cachent pas leur écœurement. Europe 1 a recueilli en exclusivité la première réaction de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus ne se prononce pas sur les responsabilités, mais il déplore l'image renvoyée.
Je n'ai pas tous les éléments, je ne vais pas dire si c'est la faute à l'un ou à l'autre. La seule chose que je peux dire de ma position de sélectionneur aussi et d'amoureux du football, c'est des choses qui sont regrettables, très regrettables. Et de par l'importance de cet événement, donne une image dans le monde entier qui est loin d'être positive.
Ça vous a peiné ?
Mais c'est des choses qu'on n'a pas envie parce que le football est montré du doigt comme ça peut arriver à chaque événement qui ont lieu, mais ça peut arriver dans d'autres enceintes sportives aussi pour différentes raisons, mais ça ne me fait jamais plaisir quand je vois de telles images.
Didier Deschamps au micro Europe 1 interrogé par Jacques Vendroux. Ces incidents au Stade de France ne sont malheureusement pas isolés. Un autre match a marqué ce week-end par des débordements. C'est le cas hier soir après la relégation de Saint-Étienne, après une séance de tirs au but contre Auxerre. Les supporters ont envahi le terrain, ils ont lancé des fumigènes, tandis que les forces de l'ordre utilisaient des lacrymogènes pour les disperser. Jean-Luc Boujon, vous avez passé la journée dans les rues de Saint-Étienne et c'est la consternation qui domine.
Oui, la consternation et même la honte. Certains supporters des Verts ont des mots très durs vis-à-vis de leurs collègues fauteurs de troubles d'hier soir. Même si être relégué en Ligue 2, c'est difficile à accepter, on ne peut pas réagir comme ça, explique Nicolas, présent en tribune hier soir.
Je me suis pris un meilleur projectile, j'ai encore la marque ici. Donc non, je ne peux pas le tolérer. On est réputé pour être des supporters hors normes comme Lens ou l'OM par exemple. Et là, ce n'est pas tolérable. Après, je peux comprendre la frustration de cette saison et tout, mais que ça aille aussi loin, non, je peux pas. Il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, on ne peut pas réagir comme ça.
Très sévère également le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, un pur Stéphanois élevé dans la culture et l'amour des Verts. Il n'admet ni la réaction des supporters, ni l'amateurisme des dirigeants du club qui ont failli à organiser une vraie sécurité.
Comment on peut rentrer dans un stade avec des bombes agricoles, avec des fumigènes, alors qu'elles sont interdites ? Il me semblait que les fouilles étaient systématiques et obligatoires à l'entrée du stade. Donc ça suffit. Tout ce qui se passe dans le stade et pour l'accès au stade est de la responsabilité du club. Donc c'est très facile de savoir qui est responsable de quoi. Et donc oui, il faut que chacun assume ses responsabilités là où elles sont.
Les deux co-présidents du club, Roland Romeyer et Bernard Caillazzo, lâchés donc de toutes parts. Hier soir, ils ont promis qu'une annonce importante pour l'avenir du club serait faite dans les prochains jours. Tout le monde s'attend donc à une vente prochaine de l'AS Saint-Étienne, même si en Ligue 2, le club aura à coup sûr beaucoup moins de prétendants.
Jean-Luc Boujon à Saint-Étienne pour Europe 1.
Europe Nuit.
Christophe Pallais.
22h09 sur Europe 1, l'autre grand titre ce soir, Paris exige une enquête transparente après la mort d'un journaliste français en Ukraine. Frédéric Leclerimov avait 32 ans, il était journaliste reporter d'images pour BFM TV. Il a été victime d'un éclat d'obus alors qu'il était à bord d'un convoi d'humanitaire et de civils. Le journaliste Maxime Brandstetter qui l'accompagnait a été légèrement blessé. C'est le 8e journaliste tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le 2e journaliste français, Emmanuel Macron a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches. Catherine Colonna, qui était en visite officielle en Ukraine, se dit profondément attristée et choquée. La nouvelle chef de la diplomatie française s'est rendue dans la ville martyre de Boutcha et à Kiev aujourd'hui. La France, a-t-elle indiqué, va intensifier ses livraisons d'armes, une aide militaire et humanitaire estimée au total à 2 milliards de dollars. L'Ukraine qui demeure au cœur du sommet qui se tient actuellement à Bruxelles. Le président ukrainien vient d'appeler les 27 à cesser leur querelle pour adopter un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, avec notamment, Jacques Seret, l'embargo sur le pétrole russe.
Oui, une grande partie des États membres veut aller plus loin dans les sanctions visant la Russie. Il s'agit maintenant de se mettre d'accord. Au cœur des discussions, le fait d'arrêter d'importer du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Mais c'est loin d'être gagné, car la Hongrie n'est pas favorable à ce projet. Ce pays dépend pour 65% de sa consommation du pétrole russe acheminé par Oléoduc. Et le veto de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, peut tout bloquer. Le dirigeant demande donc des garanties. Le compromis étudié ici est que l'embargo sur le pétrole russe ne concerne pas le brut acheminé par Oléoduc, mais uniquement le pétrole transporté par bateau. Mais même avec cette condition, Viktor Orban se montre extrêmement prudent. Il négocie la durée de cette exemption pour l'oléoduc. Il réclame 4 années, quand la France, par exemple, ne veut pas que cela dure plus de 2 ans. Il souhaite aussi avoir le droit de recevoir du pétrole acheminé par voie maritime, si jamais quelque chose arrivait à l'oléoduc. Bref, autant de conditions qui rallongent les négociations ici entre les 27, alors que l'unanimité est requise pour adopter ces sanctions. Et à ce stade, cela montre surtout que l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix face à Vladimir Poutine.
Jacques Seret depuis Bruxelles. Et puis, puisqu'on parle des questions d'énergie, après une année de gel des prix de l'électricité, il n'y aura pas de rattrapage sur les factures l'an prochain. C'est ce qu'a précisé aujourd'hui le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. En revanche, pour maintenir le bouclier tarifaire, l'État va devoir trouver de nouvelles sources de financement, Maud Descamps.
En effet, l'État va devoir trouver 2 milliards d'euros supplémentaires pour financer le bouclier tarifaire sur l'électricité. Le gouvernement s'était engagé à limiter la hausse des factures d'électricité à 4% cette année, mais les prix de marché de l'électricité ont continué à fortement augmenter en raison du conflit en Ukraine et donc la mesure va coûter plus cher que prévu. Mais hors de question que ce soit aux consommateurs de mettre la main au portefeuille, prévient le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Non, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des consommateurs. Les prix de l'électricité seront plafonnés à 4% tout au long de l'année 2022. Ensuite, en 2023, nous voulons continuer à protéger les Français. Nous verrons quelle sera la modalité technique. Ça figurera dans le projet de loi de finances pour 2023. En revanche, ça ne se verra pas sur la facture des consommateurs.
Le gouvernement réfléchit donc à de nouveaux moyens de contenir la facture. Plusieurs options sont à l'étude, comme une baisse de la TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement. L'État pourrait aussi décider de compenser la hausse directement auprès des fournisseurs d'énergie, sans que cela n'impacte le consommateur.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. En politique, Valérie Pécresse a bouclé son appel aux dons. L'ex-candidate LR à la présidentielle a récolté les 5 100 000 euros nécessaires. Elle a reçu 3,3 millions de dons de particuliers, auxquels s'ajoutent 1 million d'euros apportés par les Républicains. Elle avait jusqu'à demain soir pour rassembler ses fonds. Et puis sachez qu'Emmanuel Macron se rendra demain au centre hospitalier de Cherbourg. Une visite aux côtés de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon pour mettre l'accent sur les urgences. Le chef de l'État qui se rendra jeudi à Marseille avec le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Un mot de justice avec le maintien en détention de Patrick Balkany. Sa remise en liberté conditionnelle avait été annoncée cet après-midi par le tribunal d'Evry, mais le parquet a décidé de faire appel. L'ancien maire de Levallois-Perret reste donc incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. Et puis ce triste épilogue pour l'orque qui était en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre. Elle a été retrouvée morte ce matin. Elle va être remorquée pour être autopsiée selon la préfecture de la Seine-Maritime. C'est l'association Sea Shepherd qui a retrouvé l'orque. Écoutez Lamia SM Lali, présidente de l'association qui était sur place aujourd'hui.
Elle était morte sans doute depuis un petit moment. Pour nous, la principale inquiétude, c'était qu'elle soit percutée par un des énormes cargos qui passent sur la Seine, surtout qu'elle avait tendance à dériver vers le milieu du fleuve. Alors, il n'y avait pas de garantie de la sauver, hein, parce qu'on n'a pas de certitude sur les raisons pour lesquelles elle est rentrée dans la Seine. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on aurait pu maximiser ses chances en intervenant bien plus tôt. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de réaliser cette autopsie, de voir au niveau de l'oreille interne, est-ce qu'elle a été désorientée. Je pense qu'il faut aussi considérer cette orque comme une ambassadrice d'un océan qui est à l'agonie. On garde à l'esprit aussi que nos habitudes de consommation ont des impacts colossaux sur l'océan et sur les animaux marins. Il y a un sentiment forcément d'amertume par rapport à tout ça, puisque l'issue est bien triste et peut-être qu'elle aurait pu être évitée.
La présidente de l'association Sea Shepherd au micro de Siam Spencer.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir.
On va commencer avec l'affiche événement ce soir sur le court Philippe Châtrier entre le russe Daniil Medvedev et puis la tête de série numéro 20, Marin Cilic, le croate.
Oui, Exactement, et pour l'instant, petite surprise, même grosse surprise ici, puisque le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, est mené 2-7 à 0 en à peine plus d'une heure. 6-2, 6-3 pour Marin Cilic. Vraiment, les balles du russe, de Daniil Medvedev, ont l'air d'être beaucoup plus lentes que celles de son adversaire. Il se plaint aussi beaucoup de l'état de la terre battue. Il glisse beaucoup, il n'est pas à l'aise sur ses appuis. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il est mené 2-7 à 0. Et là, il est en difficulté encore sur son service Daniil Medvedev pour démarrer cette troisième manche.
C'est la journée des surprises, Cédric. Plutôt dans la journée, il y a le Danois Holger Rune qui a créé la sensation en sortant Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 4 aussi.
Oui, Holger Rune, 19 ans, premier Danois à rejoindre les quarts de finale dans l'histoire de Roland-Garros. C'est dire si ça remonte et c'est dire aussi la performance de celui qui est classé à la 40e place mondiale et qui a donc battu Stefanos Tsitsipas en 4-7. Il affrontera un autre Scandinave, Casper Ruud, qualifié cet après-midi en battant lui aussi Hubert Hurkacz en 4-7. Alors jusqu'où peut aller Holger Rune ? Sa réponse en conférence de presse ce soir.
Je crois fortement en moi. Je me dis, si je me concentre beaucoup sur mon style et mon tennis, je peux battre à peu près n'importe quel autre joueur. Je prends les matchs les uns après les autres. Après, on verra si je suis le meilleur au monde ou pas. La question est difficile. Mais en tout cas, je dois me concentrer sur le moment. Si ce n'est pas le cas, aussi n'importe quel autre joueur pourra me battre moi. Donc ce qui compte, c'est de rester bien concentré et se concentrer principalement sur son jeu et son tennis.
Holger Rune est pour être tout à fait complet, qualification dans le tableau féminin, cette fois pour les quarts de finale de la tête de série numéro 1, Iga Swiatek, qui a tout de même perdu son premier set du tournoi face à la chinoise Qin Wenzheng. Ça passe aussi pour Daria Kasatkina et Veronika Kermetova, deux joueuses russes, et Jessica Pegula, l'américaine.
Vous en sortez bien, Cédric. Donnez-nous le programme pour demain, il s'annonce épique.
Oui, il promet dès midi sur le court Philippe Chatrier. L'Italienne Martina Trevisan et la Canadienne Leila Fernandez ouvriront le bal avant un affrontement entre Américaines, Coco Gauff face à Sloane Stephens. Puis les deux grands chocs que tout le monde attend. Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz. D'abord, tête de série numéro 3 contre tête de série numéro 6. Puis la session de nuit entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Une programmation qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. La dernière rencontre sera bien diffusé sur Amazon Prime, mais gratuitement. On a coupé la poire en deux du côté de l'organisation.
C'est sans
doute, voilà, c'est ça, et c'est sans doute le meilleur choix possible selon Guy Forget, l'ancien directeur de ce tournoi.
Pendant Roland Garros, on parle du tennis tout le temps, des petites polémiques. Non, vraiment, moi, ce que je retiens, c'est qu'on va avoir un match exceptionnel. C'est pas important que ce soit l'après-midi ou le soir. Mais tout, il y a les engagements qui sont pris. Le stade a été construit et les prize money des joueurs sont payés grâce aux broadcasters qui payent des montants importants. Donc, forcément, il y a des priorités, il y a des accords qui ont été passés. Et la direction du tournoi doit en tenir compte. C'est bien logique. Après, je pense que c'est la forme du moment qui fera que Rafa va gagner ou perdre et Novak inversement. On va avoir des beaux matchs demain et dans l'après-midi et le soir. Et c'est vraiment ça la bonne nouvelle.
Guy Forget qui jouera lui à partir de demain matin le tournoi des légendes ici à Roland-Garros au micro d'Axel May.
Merci Cédric. Cédric Chasseur pour Europe 1 qu'on retrouvera bien évidemment pour la suite et la fin de ce Medvedev-Cilic. Et puis un mot de football, le club de Chelsea n'appartient plus officiellement au milliardaire russe Roman Abramovich. Le club anglais a annoncé aujourd'hui que la vente à l'homme d'affaires américain Todd Burley et son consortium d'investisseurs étaient finalisés pour un montant de 4,5 milliards d'euros. La météo de ce mardi, Marlène Duret, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors demain, le temps s'annonce généralement sec, mais on attend quelques averses. Où cela, Marlène ?
Alors plutôt sur la partie sud du pays, hein, des averses qui sont en train d'arriver d'ailleurs en ce moment par le golfe de Gascogne. Elles peuvent s'accompagner de petits coups de tonnerre. Et donc depuis l'Aquitaine, elles vont se diriger cette nuit vers le Limousin, l'extrême nord de Midi-Pyrénées et l'Auvergne hein, pour commencer. Et puis elles arriveront au niveau du Massif central en toute fin de nuit. Demain matin, eh bien, on va les retrouver en région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au Jura et aux Alpes centrales. Elles auront tendance à progresser dans l'après-midi vers la partie sud des Alpes et elles pourront prendre un petit caractère orageux en seconde partie d'après-midi sur le reste du pays. Eh bien, c'est le soleil qui va dominer. Peu de chances de voir tomber la pluie. Alors, quelques petites averses localisées possibles dans les Hauts-de-France ainsi que du côté de la Montagne Noire et des Pyrénées durant l'après-midi. Les températures, un petit peu frais le matin dans le nord, on pourra le sentir par endroits. 5 degrés par exemple du côté d'Abbeville.
Ah oui.
Dans la Somme, 5 degrés dans la Nièvre.
C'est pas chaud pour un bientôt mois de juin.
Exactement, on est un petit peu en dessous. Et puis dans l'après-midi, allez, 16 à 19 près de la Manche, 20 à 25 ailleurs, jusqu'à 26-28 dans le sud. On notera par exemple les 16 degrés à Boulogne-sur-Mer, 19 à Lille et Brest, 22 à Paris. À Nevers, je vous disais 5 degrés le matin, il va y avoir 18 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. On attend 23. 23 également du côté de Besançon, on fera 24 à Tours, Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg, 27 à Toulouse, 28 à Marseille et ça peut même monter un petit peu plus, 29 en Avignon.
Merci Marlène, un café et prochain point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Exactement, à tout à l'heure.
Europe Nuit. Informez-vous avec Christophe Pallais sur Europe 1.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Christophe.
Alors que Wall Street est resté fermé ce lundi en raison du Memorial Day, la Bourse de Paris a aligné une quatrième séance de hausse consécutive.
Oui, ça se passe bien, hein, quatrième séance de hausse, effectivement, en Bourse de Paris, dans un marché calme. Oui, en raison de l'absence des investisseurs anglo-saxons, le CAC 40 gagne 0,72%, 6562 points. Wall Street est fermé, vous l'avez dit, ce soir, en raison du Memorial Day, c'est la journée célébrant la mémoire des soldats et des victimes de la guerre. La réouverture progressive des villes chinoises, en particulier de Shanghai, qui va sortir de confinement, a profité aux groupes les plus exposés au marché chinois, à commencer par le luxe, bien sûr. Hermès regagne 4%, 1135 euros. On a Kering qui reprend 3,3%. LVMH, plus 2,6%, 608,60 €. L'Oréal remonte aussi de 2%, 331,70 €. C'est quand même très calme tout ça. On a les banques qui progressent. Crédit Agricole, plus 1%, BNP, plus 1,4%. La Société Générale remonte d'1,7%.
L'exception du jour sont quand même les valeurs de pères de famille qui sont restées en retrait.
Oui, bah dans un marché qui retrouve un petit peu le goût du risque, les valeurs défensives, oui, les valeurs de pères de famille, sont en repli, léger repli. Hein. Alors on a le secteur de la santé, par exemple. Sanofi, moins 1,9%, qui redescend vers les 100,40 €. Le titre avait beaucoup progressé ces dernières semaines. Ipsen, moins 0,5%. Virbac, là, on est dans la santé animale, moins 0,6%. Ce soir, 375 € à la clôture. Ailleurs aussi, c'est très calme en Europe. Le DAX à Francfort monte de 0,8%. On est stable à Bruxelles, stable à Madrid. Milan, plus 0,7%. Et donc, le CAC 40 en hausse de 0,72%, 6562 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com.
Europe Nuit.
Christophe Pallais sur Europe 1.
L'invité politique sur Europe 1 avec nous ce soir en studio, Rudolf Granier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat républicain pour les législatives dans le 18e arrondissement de Paris. Pour commencer, un mot de ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Vous pensez, comme Gérald Darmanin, que c'est uniquement la faute des milliers de supporters anglais munis de faux billets ?
Non, et rien ne vient absolument étayer la thèse de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'il y a un réel problème d'organisation. Il y a une chaîne de commandement, une chaîne de décision qui a complètement mis la panique. À un moment, il doit y avoir des responsabilités à trouver, à chercher. Et une fois que les responsabilités sont trouvées, bien ce sont les chefs qui doivent tomber. Donc aujourd'hui, clairement, Gérald Darmanin est sur la sellette.
À ce point-là ?
Complètement. Aujourd'hui, en 2013, on a la Coupe du monde de rugby. En 2014, on a les Jeux olympiques. On voit bien...
2024.
2024, pardon. Ouais. On voit bien qu'il y a toute une chaîne de commandement, encore une fois. Il y a plusieurs acteurs autour de la table. Mais tout ceci vire au fiasco le plus intégral. D'autant plus que... On savait qu'il y avait un risque avec un nombre important de supporters qui pouvaient se rendre là-bas. Il n'y en avait pas autant apparemment. 40-50 000 supporters anglais sans billets, c'est totalement impossible. Donc je pense qu'il y a déjà parjure de la part du ministre de l'Intérieur. Il a menti tout simplement. Donc il devra rendre des comptes. Et je salue notamment l'action du Sénat pendant toute la mandature précédente et actuellement, notamment avec le sénateur Michel Savin, sénateur de l'Isère, qui est spécialiste du sport au Sénat et qui va tout faire pour que la lumière puisse tomber sur cette affaire. Parce que si vous voulez, moi, je veux bien qu'on accuse un tel. À un moment, c'est les responsables politiques qui sont en responsabilité, par définition. Et vous verrez, demain, le Conseil de Paris commence à l'Hôtel de Ville. Nous allons également interroger, demain matin et jusqu'à vendredi, et nous allons également, avec Rachida Dati, interroger Anne Hidalgo sur ce qu'elle pense de ce que doit être l'organisation des JO qui, selon toute vraisemblance, porte énormément de faiblesses sur l'aspect sécuritaire, également sur l'aspect financier. On en parlera demain au Conseil de Paris, mais également sur l'aspect de l'organisation. Vous avez vu tout ce jeu de bonneteau qu'on fait, que les fédérations sportives ne supportent plus, en voulant mettre le basket tantôt dans tous les coins de Paris, tantôt en province, par exemple. On ne comprend absolument plus rien. Donc je pense qu'il faudra aussi éclaircir les Jeux Olympiques de Paris. Le match de samedi avait, soi-disant, valeur de test pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, comme on l'a dit.
Après, il a été organisé en 3 mois. Alors qu'il faut habituellement 18 mois pour organiser un match, une compétition officielle.
Comme l'a dit la nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques, si la France est aussi spécialiste que ça dans l'organisation d'événements d'ampleur mondiale, on ne devrait pas voir la différence. Et 3 mois sans rire, c'est quand même suffisamment correct pour un pays de l'envergure de la France qui a soi-disant l'habitude d'organiser ce genre de choses.
Vous mais d'autant plus qu'on ne tire aucun enseignement. Les autorités françaises aient pu se faire doubler par un système de billetterie frauduleuse.
La note des renseignements l'évoquait très clairement. Donc qu'est-ce qui a été anticipé ? Absolument rien. Et pire encore, on ne retient rien des erreurs précédentes. Finale de Coupe de France PSG-OM, on avait subi les mêmes engorgements au niveau du RERD. Et ensuite, si vraiment ça pose un problème au niveau des transports, vous savez ce qu'on fait ? On réquisitionne des chauffeurs, des conducteurs de train, et on leur fait assurer le service au niveau du RERB, puisque l'écueil principal serait sur la desserte du RERD. Il faut être parisien pour connaître, mais en réalité, quand on va au Stade de France, on a plus l'habitude de prendre le B. Si on prend le D, effectivement, c'est beaucoup plus loin, on le sait. Il y a un tunnel pour sortir qui est beaucoup plus étroit. S'il y a eu un report de circulation dès Châtelet, apparemment, on invitait les supporters à aller prendre le D. S'il y a eu un goulot d'étranglement là-bas, on le savait déjà depuis, si ma mémoire est bonne, 95 ou 96, sur cette finale de la Coupe de France PSG-OM, où il s'est produit exactement les mêmes choses.
Donc vous seriez prêt à dire demain au Conseil de Paris arrêtons l'organisation des JO en 2024, la France n'est pas capable de le faire ?
Absolument pas. On a déjà pu monter des événements de cette envergure et on l'a fait même à Albertville sur les JO d'hiver. Enfin, à un moment, il faut savoir...
Ça remonte un peu quand même, c'était 88.
Il y a quand même... On a fait des Coupes du Monde de football entre-temps. Il y a des choses qu'on sait faire. Moi, je suis convaincu qu'on a ce savoir-faire.
Mais sportifs. À
ce moment-là, il faut savoir se parler, il faut savoir se mettre autour de la table. Il faut non pas tirer la couverture à soi, non pas dire que c'est la faute des supporters anglais comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, assumer sa responsabilité en tant comme politique, c'est tout simple. Et je vais vous dire une chose, si les Français veulent faire assumer la responsabilité de tous ces errements au gouvernement et à Gérald Darmanin, parce que moi je considère qu'il est responsable, écoutez, il y a une seule chose à faire le 12 et le 19 juin, c'est de ne pas voter pour La République En Marche.
Alors, législative, on en parle justement. Christian Jacob semble plutôt optimiste pour votre famille politique.
Tant mieux.
Vous pensez que LR pourra garder à l'Assemblée sa place de principal opposant malgré la progression de l'ANUPS autour de Jean-Luc Mélenchon ?
Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je ne crois à absolument aucun des sondages qui sont donnés. Ces 577 élections qui vont se dérouler le 12 et le 19 juin, ça dépendra de l'implantation territoriale des élus sortants, ça dépendra de l'implantation territoriale des partis politiques. Ce que je constate, c'est que plus de 60% des mairies de plus de 10 000 habitants sont gérées par les Républicains. Ce que je constate, c'est que nos élus locaux sont très présents et qu'on a gagné la majorité des départements, qu'on a conservé nos régions et que les députés sortants sont implantés. Alors oui, vous le dites, il y a un enjeu pour des primo-candidats comme moi, mais tout le travail qu'on a pu faire avec Rachida Dati pendant 2 ans au Conseil de Paris, et vous le verrez demain, mercredi, jeudi, vendredi, pendant la séance du mois de mai, va porter ses fruits. Si demain, il faut sanctionner la gestion de Paris et les errements, notamment futurs, qu'on suppose au niveau des Jeux Olympiques, qu'ils soient financiers, organisationnels, sécuritaires, on ne vote pas Hidalgo, on vote les Républicains.
Bon, vous avez vu ce soir que Valérie Pécresse a réussi à boucler son appel au don. Vous êtes soulagé pour elle ?
Pour elle, oui, tant mieux. Oui, c'est une bonne chose pour les finances du parti, bien sûr, oui. De toute façon, les Républicains s'étaient engagés, ont respecté leur engagement sur le montant qui allait être apporté à la candidate Valérie Pécresse. Ces engagements ont été respectés. Moi, je me satisfais que les Français, majoritairement, puissent considérer que la droite doit encore exister en France et ça va se matérialiser également pour les élections législatives, j'en suis convaincu.
Rudolf Granier, candidat à Républicain aux législatives à Paris dans le 18e.
Merci.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Europe Nuit. Christophe Pallais vous informe sur Europe 1.
On jette un œil sur les unes de la presse de ce mardi avec le fiasco du Stade de France. Darmanin sur la défensive, c'est à la une du Figaro qui met en avant le fait que les Britanniques et l'opposition lui reprochent de se défausser. À la une d'aujourd'hui en France, les paris perdus d'Anne Hidalgo, on en parlait il y a un instant, après son score à la présidentielle, c'est une maire sous pression qui va faire sa rentrée demain matin au Conseil de Paris. La France, toujours leader en matière d'investissement étranger, c'est en première page des Échos qui nous apprend que la France bat son record de 2019 et creuse l'écart en tête du classement européen. La Croix fait sa une sur les candidats sortants. Malgré le poids de la charge et les critiques, une large majorité de députés se présentent de nouveau pour les élections législatives des 12 et 19 juin, nous apprend le quotidien. Enfin, l'opinion fait sa une sur la guerre du blé et l'Occident dans le piège russe. l'Occident qui reproche à Poutine d'orchestrer une famine mondiale en bloquant le trafic ukrainien via la mer Noire. 22h30, 5 secondes, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Parfaitement reposé après son week-end, Olivier Delacroix vous
attend.
Bonjour
mon cher Christophe.
Bonsoir Olivier pour la Libre Antenne.
Exactement.
Et je dois, me semble-t-il, vous souhaiter aussi un bon anniversaire.
Eh bien je vous remercie beaucoup. 24 ans, je les porte bien,
ah, j'allais vous le demander.
Oui, exactement.
Je ne suis pas sûr de votre chiffre. j'ai un doute, c'est marrant.
Non, tout de même pas. Ouais. 58 ans déjà.
58.
Mon Dieu,
ah
que
ouais.
Le temps passe.
Eh ouais, ça tourne. Hein.
Eh oui, ça tourne. C'est pour ça que tout le monde, voilà, tout le monde me l'a fait, c'est très gentil. Mais c'est vrai que c'est un jour particulier, l'anniversaire. On se dit un an de plus.
Ouais, c'est pas un chiffre rond en même temps.
Non, et puis demain, c'est fini. Donc, dans quelques heures, c'est fini. Donc, c'est parfait.
Bon, bah, les auditeurs vont pouvoir vous le souhaiter toute la
Exactement.
Soirée.
Exactement. Je vous remercie de les avoir lancés.
On en reparle à 23h.
À 23h, salut à tout
à l'heure, Olivier.